Salut tout le monde, c'est Marie. L'épisode de Sologamy va bientôt commencer. Ce petit message, c'est juste pour vous informer que si vous souhaitez l'écouter directement en avant-première et sans publicité, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme réservée aux artistes et créatrices de contenu, par exemple de podcasts, comme moi. Pour un abonnement de 5€ par mois, vous soutenez mon travail et accédez à de nombreuses contreparties. Mon podcast Sologamy me demande plusieurs heures de travail par semaine. Ça fait déjà 4 ans que je travaille bénévolement pour produire tous les épisodes que vous écoutez gratuitement. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien financier pour continuer le podcast. Mon travail mérite une rémunération. Si vous en avez les moyens, rejoignez ma communauté Patreon à l'adresse suivante patreon.com/mariealbertfr. J'ai mis le lien dans la description du podcast. Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamy avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Dans le premier livre co-écrit auquel j'ai participé, Nos Amours Radicales, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de public de femmes hétéros en couple avec des hommes et féministes et qui venaient nous voir et qui nous disaient voilà, comment faire pour que mon mec s'intéresse à ce qui m'intéresse, s'intéresse aux enjeux féminins, s'intéresse à moi, ce qui me touche, aux répartitions des travaux ménagers, etc. Bref, et en fait, quand tu déroulais la discussion, au bout d'un moment, c'était comment faire pour que mon mec s'intéresse vraiment à moi. Et c'était un peu, tu vois, toujours ce truc d'essayer de les convaincre. De convaincre les hommes de s'intéresser à elles, de s'intéresser à ce qui les intéresse, etc. Alors que la question, c'est pourquoi ils ne s'y intéressent pas.
Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème des hommes prétendument hétérosexuels. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Léane Alestra. Bonjour Léane.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter et te définir pour les gens qui ne te connaissent pas ?
Oui. Du coup, je suis Léane Alestra. J'ai fondé le média Mécréante, qui maintenant appartient au média Manifesto 21, qui est un média queer, LGBT et féministe, tout ça. Et moi, j'ai écrit le livre Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment, qui est paru chez J.C. Lattès en mars 2023. Et j'ai fait aussi des études de genre à Paris 8. Et à côté, je suis aussi illustratrice, donc voilà. Mais on fait plein de choses, mais principalement aujourd'hui, j'écris. Voilà, autour des questions de genre.
Est-ce que tu veux dire où tu habites et quel âge tu as ?
Oui, j'habite à Aubervilliers, mais je viens de la région bordelaise et j'ai 25 ans.
Merci Léane. Dans mon podcast Sologamy, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission tous les mardis. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'hétérosexualité, plus précisément de la contrainte à l'hétérosexualité et de l'homophobie masculine. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Tu l'as dit, c'est le titre de ton livre. Pourquoi couchent-ils avec des femmes alors qu'ils préfèrent leur père masculin? Pourquoi se montrent-ils homophobes dès que nous pointons leur bromance? Pourquoi quitter l'hétérosexualité est-il libérateur pour tout le monde? On va se poser ces questions et y répondre dans cet épisode. Mais d'abord, je voulais te poser les questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire?
Pour moi, ça veut dire un moment d'aventure, de liberté, de champ de possibilités. Et voilà, enfin, c'est super.
Est-ce que toi, tu es célibataire? Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie?
Non, là, je suis en couple depuis 3 ans presque avec une femme. Et j'ai été très souvent célibataire. J'ai eu que 2 relations un peu longues dans ma vie. Et c'était très bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé mon célibat.
Et t'as toujours été bien avec ton célibat? Est-ce qu'aujourd'hui, tu relis bonheur et couple ou pas du tout?
Non, pas du tout. Puis, en fait, je me suis vraiment mis en couple parce que je suis vraiment tombée amoureuse, mais c'était pas du tout prévu. Enfin, je voulais pas du tout me mettre en couple à ce moment-là. J'avais vraiment hyper envie d'explorer, de voir plein de choses et tout. Et ça nous est un peu tombé dessus. Mais du coup, c'est très bien. Mais c'était pas quelque chose que je recherchais particulièrement. Et c'est jamais quelque chose que j'ai recherché particulièrement.
Et aujourd'hui, tu te définis comme lesbienne?
Oui.
Ok. Est-ce que la solitude, c'est important pour toi?
Oui, très important. J'en ai vraiment besoin. Oui, toujours.
Et comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui? Je sais que tu as passé une année très active avec la promo de ton livre. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es fatiguée?
Oui, je suis un peu fatiguée, mais comme tout le monde, je pense que c'est vraiment au-delà de ma personnalité. Je crois que l'époque est fatigante, l'époque est usante pour beaucoup de gens. Et c'est un peu, j'essaie de tenir ces discours de... Je précise pour les auditeurs qu'on enregistre, on est en février, donc on est un peu à la fin de l'hiver, etc. Mais j'ai toujours un peu ce truc de chercher la joie, chercher à inventer nos espaces et tout, mais en fait, ça demande beaucoup d'énergie. Et là, je sens que je suis fatiguée, et moi qui suis d'abord un peu toujours le rôle du bout en train, du moteur et tout, mais moi, je commence à un petit peu fatiguée, mais c'est qu'il faut un peu de vacances aussi, et puis après, ça ira mieux. Voilà. Mais je pense que c'est aussi une stratégie de la politique de faire beaucoup d'annonces très déprimantes, pour qu'on puisse courir plus aller partout et qu'on soit un peu, enfin c'est la stratégie du choc quoi, voilà, et ça m'embête quand même pas mal.
Ouais, je pense qu'on est vraiment épuisé en cette fin d'hiver. Est-ce que tu vis en couple? Est-ce que ton couple ça a une influence sur ta situation financière ou pas du tout?
Oui, je vis en couple mais au sein d'une colocation, donc on a une chambre toutes les deux mais on est 4 dans la coloc et j'aime bien ça parce que du coup on a à la fois peut avoir des moments pour nous et en même temps si j'ai envie de plutôt parler avec mon coloc le soir, boire une tisane, manger avec d'autres gens, parler d'autres choses, c'est cool aussi quoi. Voilà.
Et pour le côté financier, le fait que vous soyez deux dans la même chambre, c'est peut-être moins cher aussi?
Non, parce qu'on divise par 4 quand même pour que ça y ait pas un déséquilibre justement qui pénalise les célibataires, donc voilà. Mais on a quand même en échange un peu plus de placard, mais voilà.
Ok, donc c'est pareil. Et comment tu vis ta sexualité en couple?
Bah écoute, très bien. Moi j'ai toujours eu, justement, vu qu'on parle de sologamie et tout, moi ça a toujours été important d'avoir ma sexualité propre à moi, vis-à-vis de moi, et après ma sexualité avec ma partenaire. Mais pour moi, genre ma sexualité c'est moi vis-à-vis de moi, et après j'ai aussi une sexualité avec ma partenaire. Mais pour moi c'est un peu 2 choses différentes quoi. Et j'ai toujours appris à être, j'ai appris ça assez tard, mais à être complètement autodépendante. Donc c'est-à-dire que je ne dépends pas du plaisir de ma partenaire. Et d'ailleurs normalement on est en couple libre, mais en vrai je te cache pas qu'on a grave la flemme, donc on n'a jamais fait autre chose, juste pas parce que on est bridé ou quoi, mais juste parce que on n'a pas envie quoi. On a envie de mettre notre énergie ailleurs. Et moi c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que je pense que c'est la femme de ma vie quoi, mais d'un autre côté ça a jamais été mon goal et j'ai jamais centré toute ma vie sur l'amour et sur les relations. Ça a toujours été en mode c'est bien si c'est là, c'est cool, mais c'est pas mon combat quoi. Ce qui est paradoxal, vu que j'écris quand même beaucoup sur les relations sentimentales et tout, mais j'ai plutôt été la figure du Cupidon pour les autres. Mais pour moi, c'était un peu... Je préfère mes amis, mes projets, enfin voilà.
Donc t'étais limite surprise de tomber amoureuse, quoi. T'avais pas prévu.
Ouais. Et surtout qu'en plus, chez les lesbiennes, ça va vite. Donc elle s'était installée chez moi avant qu'on se mette officiellement ensemble, donc... Voilà. Et quand on s'est mis ensemble, j'ai rencontré sa famille une semaine après. Enfin, les lesbiennes, quoi.
Donc, vous habitez ensemble depuis 3 ans, du coup. Ça se passe bien? Parce que vous êtes quand même dans la même chambre pour la solitude et tout, ça doit être compliqué.
Non, mais en fait, elle était juste... Elle a habité chez moi pendant 3 mois parce qu'elle était entre 2 appartements. Mais après, elle est retournée. Puis, on a fait 1 an où on allait un peu chez l'une, chez l'autre. Mais c'était compliqué parce que on passait notre temps à vraiment... Enfin, en plus, j'ai un chat. Du coup, des fois, le chat restait tout seul et tout. Donc, c'était plus possible. Mais sinon, oui, pour le temps pour soi. Après, on a des horaires décalés. Elle est salariée. Moi, je suis free. Donc, j'arrive quand même à avoir un peu de temps solo. C'est plus pour elle que ça pose problème, mais elle aime bien quand même être avec du monde, donc ça va.
Et tu dis que tu bosses chez Manifesto 21, c'est ça?
Ouais. On bosse tous, mais on n'est pas payé, quoi.
Ah ouais, après, donc tu bosses de chez toi, vous n'avez pas de bureau?
Si, si, on est en résidence chez Artagon, donc il y a une résidence d'artistes à Pantin, mais ça finit fin avril, et après, il faut qu'on trouve d'autres bureaux. Voilà, et Marseille a aussi vient de trouver des bureaux, parce que Manifesto a la particularité d'être entre Paris et Marseille. Voilà.
Trop bien. Est-ce que tu es sensible au regard des autres vis-à-vis de ton couple lesbien, ou pas du tout?
Non, vraiment pas du tout, je m'en fous. Vraiment. Voilà, après, juste, t'as la sensibilité de quand t'es en couple lesbien, des fois, tu te tiens la main dans la rue et t'es en mode « je suis trop une folle ». Mais même ça, ça me fait rire parce que ma copine, elle y pense jamais. Genre, elle est légèrement sur le spectre autistique et du coup, elle capte pas du tout. Enfin, elle a pas du tout ce truc-là. Et des fois, je suis en mode « non, mais t'as vu, on est trop des thugs, on s'est tenu à la main là et tout ». Elle est là « ah bon, ça pose un problème, d'accord ». Genre, aucun... Enfin, voilà. Donc ça va, en vrai, tout va bien. Puis j'ai eu de la chance que maintenant dans la famille, tout, enfin de nos deux côtés, les familles sont acceptantes maintenant, donc c'est cool, quoi.
Ok, trop bien. Bah écoute, on va passer au thème du jour. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Aucun rapport avec ce dont on vient de parler, mais on va faire le lien. Je sais qu'on t'a déjà posé plein de fois la question. J'ai écouté plein de podcasts où tu y réponds, mais peut-être que les gens ne l'ont pas fait. Donc pourquoi as-tu écrit ce livre, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, publié par les éditions J.C. Lattès en mars 2023, donc il y a plus d'un an?
Alors, pourquoi? Eh bien, parce que dans le premier livre coécrit auquel j'ai participé, Nos âmes radicales, on s'est rendu compte qu'on avait énormément d'un public de femmes hétéros en couple avec des hommes et féministes et qui venaient nous voir et qui nous disaient voilà, comment faire pour que mon mec s'intéresse à ce qui m'intéresse, s'intéresse aux enjeux féministes, s'intéresse à moi, ce qui me touche, aux répartitions des travaux ménagers, etc. Bref, et en fait, quand tu déroulais la discussion, au bout d'un moment, c'était comment faire pour que mon mec s'intéresse vraiment à moi. Et c'était un peu, tu vois, toujours ce truc d'essayer de les convaincre. De convaincre les hommes de s'intéresser à elles, de s'intéresser à ce qui les intéresse, etc. Alors que la question, c'est pourquoi ils ne s'y intéressent pas. Et de là, je me suis dit, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un paradoxe qui est finalement peu nommé et peu pointé tel quel, qui est qu'on demande aux hommes d'être à la fois hétéros, donc hétéro-romantiques, donc relationnés romantiquement avec des femmes, hétérosexuels, couchés avec des femmes, ce qui est le plus important, parce qu'il faut faire une démonstration de puissance sexuelle, homophobes. Donc, c'est-à-dire montrer que on n'est pas une tapette, on n'est pas gay, ça c'est des choses qu'on entend dans la bouche des hommes, des femmes qui disent des hommes s'ils sont des pédés ou pas depuis l'enfance. Et en même temps, il faut être proche des hommes et rechercher leur validation. Donc, comment ça se fait que les hommes soient à la fois sexistes, hétéros, homophobes et cherchent à être dans une forme de boys club? Pour la plupart, bien sûr, il y a des gens qui sont un peu en mode je suis loup célibataire, le seul de la meute, etc. Mais ils cherchent quand même in fine à plaire aux hommes qui tiennent haut en estime. Et je me suis dit, c'est marrant parce que ce paradoxe tel quel n'a pas été pointé comme ça. Et donc, c'est intéressant de se poser les questions d'abord des relations des hommes avec les femmes, puis des hommes entre eux, puis de qu'est-ce que les hommes disent aux politiques. Donc, le livre est articulé comme ça. Femme-homme, homme-homme, hommes et politiques, et comment ça fait système, en fait. Voilà.
Ouais, c'est un gros livre, et moi, je l'ai lu l'été dernier quand je traversais les Pyrénées à pied, et ça m'a fait exploser le cerveau, surtout le début, parce que je me suis rendu compte, effectivement, que, comme tu le dis, voilà, ils détestent les femmes et ils s'aiment entre eux, et pourtant, ils veulent coucher avec des femmes, ce qui n'a absolument aucun sens. Et vu qu'on est dans le podcast Sologamy, je voulais rajouter une question sur l'amour romantique. Est-ce que tu peux refaire l'historique de l'amour romantique? Depuis quand on fait une fixation sur l'amour hétéro-romantique? Pourquoi? Et quelle est la situation aujourd'hui?
Oui, alors il y a déjà eu quelques petits trucs, genre au Moyen-Âge, amour courtois, enfin j'imagine que tu en as entendu parler, mais c'était surtout un amour homosexuel à la base, l'amour courtois entre deux chevaliers, donc plutôt homo-romantique parce qu'on n'a pas de traces de sexualité, mais juste de grandes amitiés, de grandes déclarations, etc. Puis après, on a eu Tristan et Iseult, mais qui était un peu genre, bon, c'est un peu l'exception, et puis c'était un amour impossible parce que l'amour romantique moyen-âgeux ne se vivait pas. L'amour courtois, il n'y a pas de relation. Sexuel et du quotidien. Donc l'amour romantique du quotidien où il faut fonder un foyer, machin, et ça c'est incroyable, c'est extrêmement récent, ça date du 19e siècle. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est un mouvement contre-révolutionnaire. Pourquoi? Parce que du coup, on est après la Révolution française, on est après la Commune, donc on a vu des femmes révolutionnaires qui montent au créneau, qui font des trucs incroyables, et il faut les ramener à la maison. Donc c'est pas une... C'est pas une théorie du complot, c'est juste que voilà, il y a eu tout un courant littéraire romantique, du coup, le courant romantique qui demandait aux femmes de, enfin qui, non, pardon, il y a eu tout un courant littéraire qui est celui du romantisme qui dépeignait les femmes comme des créatures toujours malades, fragiles, qui sont torturées par leur âme. Et qui passent leur nuit à écrire des poèmes et du coup qui sont très cernées, toutes blanches. Enfin, c'est un peu aussi la gothique, enfin, c'est une esthétique un peu gothique, cheveux noirs, etc. Et donc, ces femmes-là, à l'époque romantique, comme par exemple Victor Hugo, avaient des maîtresses qu'ils enfermaient, qu'ils séquestraient littéralement dans des tours. Enfin, c'était vraiment ça, on est en plein réponse, sauf que c'est des femmes adultes et que c'est leur amant qui fait ça. Et donc, par exemple, l'amante de Victor Hugo n'avait pas le droit d'ouvrir son courrier sans Victor Hugo, n'avait pas le droit de s'acheter des trucs, n'avait pas le droit de sortir s'il n'était pas là pour lui ouvrir, et elle était vraiment séquestrée, quoi. Et donc ça, c'est l'idéal de l'amour romantique, ça vient de là. Et c'est aussi des valeurs bourgeoises. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie cherchait à se distinguer de la noblesse et des classes populaires en démontrant qu'elles avaient des normes et des valeurs beaucoup plus... raffinés que les autres. Et donc, comme on croyait plus dans le clergé, on s'est dit, ben voilà, nous, ça va être l'amour romantique. Notre besoin de transcendance humaine va passer par l'amour romantique, et on va exalter ça parce que nous sommes tellement raffinés, nous nous faisons la cour, nous nous aimons, nous choisissons, etc. Et donc, c'était une distinction de classe à la base. Et c'est pour ça que encore aujourd'hui, le sujet de l'amour, de est-ce que je couche ou pas, ça reste encore une préoccupation plus bourgeoise. Dans les classes populaires, c'est moins une préoccupation. Et ça, c'est resté, mais maintenant, c'est devenu hégémonique. Et puis, ça, c'est vachement, ça. Ce qui est intéressant, c'est que plus les femmes se libèrent, donc c'est-à-dire plus il y a eu des vagues féministes, etc. Donc droit de vote, droit d'avoir un compte bancaire, etc. Et plus le socle de l'amour romantique devient important. Donc c'est-à-dire avec Hollywood, ben voilà, ça devient de la culture de masse, mais ça avait déjà commencé avec les romans. Et on voit aujourd'hui, maintenant, ça continue avec les réseaux sociaux où, par exemple, le mariage était un petit peu en perdition, et avec Instagram, le mariage a eu un énorme boom parce que sa mise en scène est devenue un peu un goal social. Et donc, on voit que tous les instruments de culture de masse permettent à cet impératif, à ce mythe de l'amour romantique de persister. Voilà. Ce que je veux juste préciser, c'est qu'avant, il y avait des gens qui tombaient amoureux, hein, avant le 19e siècle, bien sûr, mais c'est juste que c'était pas important socialement. On était plutôt valorisé parce qu'on était un bon chrétien, par exemple, ou parce qu'on travaillait bien. Voilà, ce qui était attendu des femmes, c'est avant tout qu'elles soient des travailleuses et qu'elles fassent bien tourner le foyer. Et donc, c'était juste que tout le monde s'en foutait. Très bien, t'étais amoureuse de Jacqueline, ok, mais enfin, c'était pas important. Voilà. Alors que maintenant, bah, la famille, une des premières questions, ça va être est-ce que t'as rencontré quelqu'un? Est-ce que t'es amoureuse? Y compris pour les enfants, quand même. Enfin, dès l'enfance, on demande ça aux enfants, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait un peu le tour.
Ouais, trop bien. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler des relations amicale ou dans le temps homo-érotique entre les hommes, pourquoi on est passé de société où les relations amoureuses ou sexuelles entre hommes étaient normales à une société homophobe, et comment on explique que les hommes aujourd'hui soient si proches les uns des autres sans coucher ensemble, soi-disant?
Oui, donc on a eu tout un passé organisé sur la non-mixité et la séparation de sexe, et donc bah, par exemple à l'armée. Il y avait besoin quand même de développer un lien social entre les soldats pour qu'ils puissent avoir vraiment cœur à se défendre, parce que bah, forcément, quand c'est ton ami, quand c'est quelqu'un que tu aimes, et bah, tu vas te défoncer encore plus dans la guerre pour sauver ta peau, quoi, et celle de tes amis. Donc ça, c'était déjà un truc important. Donc on le voit déjà à l'époque antique, etc. Il y avait des bastions d'amants sacrés, etc. Donc c'était des couples, hein, en gros, de soldats hommes qu'on mettait pour qu'ils se protègent l'un et l'autre. Donc tu vois, cette mentalité, je n'invente pas, enfin c'était des stratégies militaires, quoi. Et après, bon, déjà, sur le monde entier, la dichotomie homme-femme, hétéro-homo, c'est pas du tout une donnée universelle, et c'est pas du tout une donnée de tout temps, de tout lieu, tu vois. C'est juste que dans beaucoup de cultures, le mariage était entre un homme et une femme pour des questions de filiation et pour des questions d'héritage, mais tes sentiments et ta vie sexuelle, et même le genre, étaient complètement différents. Bah, déjà, encore aujourd'hui, en Inde, il y a 7 genres différents, mais dans le monde, avant qu'on colonise 80% du globe, nous, les Occidentaux, il y avait quand même des façons de se nommer et des sexualités qui étaient très différentes et pas du tout comme on l'imagine. Voilà, donc par exemple les Vikings, pour rester dans le côté occidental, les Vikings, on sait que ça y allait de tous les côtés et il y avait pas du tout, enfin c'était pas du tout grave, au point même que ça choquait les Romains, qui eux aussi avaient des rapports homosexuels, mais qui étaient plus cadrés en mode apprenant et appris, enfin etc. En fonction de l'âge, mais les Vikings pas du tout. Voilà, enfin beaucoup de soldats. Comment ça s'appelle au Japon? J'ai un trou de mémoire. Les samouraïs aussi au Japon, hyper gays. Enfin voilà. Donc bref, en tout cas bon, on va juste dire pareil, Jésus, Palestine, toutes ces régions-là, il n'y avait pas du tout d'hétérosexualité obligatoire. Enfin ça n'existait pas, quoi. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons eu ce cher saint Augustin, qui est encore aujourd'hui un des philosophes et théologiens du coup les plus importants et influençants, et les plus influents du monde, qui lui avait un peu des problèmes avec sa daronne et qui cherchait à montrer à la base que le corps masculin, le corps des hommes, était supérieur à celui des femmes et que Dieu l'a voulu ainsi. À la base, il n'est pas chrétien, il s'est converti après la mort de son ami, très très proche, puisque quand on lit ce qu'il écrit dessus, il dit « la moitié de mon cœur s'est brisée et est morte à jamais ». C'était en gros, il dit pas « c'est l'amour de ma vie », mais c'est un peu ça, mais bon. Disons, son ami est mort, il a eu une énorme... Enfin, il était complètement dévasté, et donc il s'est converti au catholicisme, et là, il voulait démontrer que l'homme est supérieur à la femme. Et donc, sa théorie pour démontrer ça, c'était de dire l'homme... l'homme, il est supérieur à la femme parce qu'il est dur. Donc, il n'a pas de lait qui coule des seins, il n'a pas de sang pendant les règles, etc. Sauf qu'il y avait un petit hic à sa théorie, c'est que bah, il ne contrôlait pas ses érections. Donc il était en mode, comment je peux dire que le corps masculin est super dur, etc., si je contrôle pas mes érections. Et donc bref, donc lui, il a inventé l'histoire du péché originel avec Adam et Ève, qui existait avant, mais lui, il en a fait un truc en mode c'est réel, parce que les gens jusqu'à là considéraient que c'était une parabole un petit peu farfelue. Lui, il a dit non, ça a vraiment existé, c'est un couple qui existe vraiment, et encore aujourd'hui aux USA, 50% des gens croient encore que Adam et Ève ont existé. Donc il a très bien réussi son coup, et donc lui, il a dit que le péché d'Ève qui était ancré en elle, c'était celui de séduire les hommes et de souffrir à l'accouchement aussi. Donc ça, c'était sa peine. Et pour les hommes, la trace du péché d'Adam, donc d'avoir croqué la pomme défendue, eh bien, c'est le fait de pas contrôler ses érections. Et donc, à partir de cette mentalité-là, qui est devenue plus petit à petit hégémonique dans l'Église, qui petit à petit prenait de plus en plus de place et d'importance, on arrive donc au XIIe siècle. Et là, au XIIe siècle, bah, on commence à se dire que si un homme séduit un autre homme, eh bien, il a le péché d'Ève en lui, donc il est une femme. Et c'est comme ça que ça commence à poser véritablement problème. Donc, pas merci Saint Augustin. Voilà. Je vais pas en dire plus, parce que là, c'est un peu flou. Enfin, je me souviens plus des détails, et tout est dans le livre. Mais voilà, en gros, pour cette histoire. Et donc, il aurait mieux fait de régler ses problèmes avec sa mère, qui était visiblement très envahissante, plutôt que de faire chier tout le monde. Voilà.
Ouais, totalement. Et donc, aujourd'hui, on a des hommes qui ont des relations très fortes entre hommes, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la bromance et qu'est-ce que ça veut dire?
Oui. Alors déjà, juste pour finir sur le truc des hommes entre eux, c'est que oui, du coup, donc on a tous cet héritage-là. Enfin, l'école mixte, ça fait quand même pas si longtemps. Le service militaire, ça fait quand même pas si longtemps. Et donc, on a les hommes ont gardé un peu cette habitude, bah, je sais pas, par le rugby, par le foot, par juste la cour de récré, en fait, d'avoir un peu ces bandes d'hommes comme avant. Et donc, faut vraiment comprendre que c'est un héritage historique sur des siècles où il y a eu bah, des établissements pour garçons, un entre-soi, de l'homosocialité, comme on dit. Voilà. Et donc, la bromance, c'est un terme qui se développe dans les années 80-90, pour justement, donc, quand on est en pleine période du sida et donc en pleine stigmatisation des gays à leur paroxysme. Et donc, tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'homosexualité est extrêmement mal vu, est extrêmement stigmatisant et stigmatisé. Donc, on va inventer le terme bromance pour montrer que deux hommes s'aiment, parce qu'il y a quand même romance dedans, mais que ce n'est pas sexuel. C'est ça, c'est on enlève la dimension sexuelle, et du coup, c'est vraiment un terme qui est homophobe en lui-même, parce que c'est dire on s'aime, mais on n'est pas comme eux. On s'aime, mais on n'est pas gay. Et donc, bromance, c'est assez intéressant, parce que Judith Butler, qui est une philosophe du genre, dit que le premier tabou avant l'homosexualité, c'est celui de l'inceste. Et là, on voit qu'il y a bro devant, donc le tabou de l'inceste, vient faire un paravent au tabou de l'homosexualité. Donc, le terme de bromance rend compte intrinsèquement de la théorie de Judith Butler. Et donc, bromance...
Parce que bro, ça vient de brother.
Oui, frère. De brother, donc de frère, voilà. Donc ça veut dire le frère avec qui j'ai une romance. Mais comme c'est mon frère, on peut pas être gay, tu vois, c'est ça un peu le truc. Mais on s'aime, parce qu'il y a romance. Donc tout un truc où ils se tordent le cerveau, mais du coup, voilà, pour dire on n'est pas comme ça. Et voilà, donc ça vient de là. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans la... Et c'est une thématique qu'on a énormément dans la culture. Donc on a beaucoup de couples de bros, beaucoup plus que de couples hétéros d'ailleurs à l'écran, ou de couples de femmes, de sœurs badass, etc. C'est vraiment un pattern, le bro, qui est extrêmement populaire, et dans à la fois le film d'auteur, la grosse comédie, ou les livres, enfin c'est omniprésent. Et avec même exactement les mêmes patterns qu'on a dans l'hétérosexualité, genre enemy from lovers, on a la même chose en bromance. Avec, bah, par exemple, je prends l'exemple de Naruto, c'est exactement ça, enemies from lovers, lovers from enemies. Et donc, on reprend les mêmes narratifs que quand c'est un couple hétéro où ça finit, on se marie, on a des enfants, mais juste là, c'est deux mecs. Et juste, ils couchent jamais ensemble, parce que bah, c'est le monde est trop homophobe pour ça. Mais voilà, et du coup, ça permet à des... Ouais, ça permet à des mecs de garder la face. Et du coup, je mets dans le livre des exemples de gars qui disent, bah oui, moi, ma bromance, enfin, en gros, c'est l'amour le plus important, beaucoup plus que ma meuf. Parce qu'en plus, c'est reconnu socialement. La relation de bromance est extrêmement exaltée et valorisée dans notre société. Donc, c'est trop stylé d'avoir un bro. Et beaucoup de mecs rêveraient d'avoir un bro parce que, bah, juste, on a besoin de lien social déjà et on a besoin d'amitié avec tout le monde, ça, c'est normal. Mais aussi parce que c'est stylé, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est pas un problème d'avoir un bro, sauf si c'est en mode pour dire je suis surtout pas comme les gays, ou alors si c'est pour manquer de respect à ta partenaire, par exemple, comme j'en mets des exemples dans le livre. Voilà.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ouais, puis je t'ai écouté dans des interviews, tu parles du forum jeuxvideo.com où il y a des hommes qui, extrêmement sexistes, homophobes, ce forum, qui disent qu'ils ont des relations intimes avec d'autres hommes, mais comme ils se regardent pas dans les yeux, c'est pas homosexuel.
Oui, oui. Non, mais il y a toutes les théories. Si on se touche pas les couilles, on n'est pas gay. Si on se regarde pas dans les yeux, on n'est pas gay. Mais déjà, rien que... Moi, en fait, en plus, c'est extrêmement... jeuxvideo.com, c'est un site d'adolescents. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, fille comme garçon, enfin, n'importe quel genre, a déjà vécu des moments de troubles homoérotiques ou homosexuels, parce qu'en fait, bah, la plupart des gens vivent ce type d'expérience, puis après l'oublient, l'entérinent, et surtout se disent que ça ne compte pas. Et donc, bah, des filles qui ont des rapports sexuels entre filles sous couvert de s'entraîner avec les garçons, c'est extrêmement courant. Et les garçons, c'est pareil, en fait. On va faire genre qu'on découvre le porno ensemble et on va se masturber ensemble, par exemple. Et on va dire que c'est hétéro parce que c'est pour s'entraîner, parce que c'est pour après gérer avec les filles. Et donc, il y a un peu toutes ces choses-là, mais on sent quand même... On sent bien qu'il y a un trouble. Voilà, donc on essaie, ces ados essayent de tracer une limite avec leur prisme, du coup, sur jeuxvideo.com, qui est assez sexiste et homophobe, quoi. Mais derrière ça, c'est bien un trouble qui est assez commun, en fait.
Et comment ils ont réagi, les mecs hétéros, à la sortie de ton livre? Est-ce que tu as des réactions différentes?
Oui, j'ai eu des réactions différentes. Alors déjà, il y a eu beaucoup de curiosité. Donc ça, c'était bien. Genre, toutes les librairies que j'ai fait ou les festivals, on m'a dit qu'il n'y avait jamais eu autant de mecs sur un sujet féministe qui se déplaçaient. Voilà. Donc, en vrai, ça les intéresse. Parce que beaucoup voient tout de suite de quoi je parle. Voilà. Après, bah, forcément, enfin, t'as les masculins surtout sur Facebook qui s'énervaient. Mais en fait, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. Enfin, ça va. Je m'attendais à bien pire, en vrai. Et en plus, ouais, non, en fait, ça va plutôt attirer l'attention. Après, c'est soit ça attire l'attention, soit ça éveille la curiosité, soit ça déclenche tout de suite une réaction de haine. Genre, je me souviens, mon père m'a raconté qu'un de ses collègues, quand il lui a parlé de mon livre, parce que mon père était trop fier, il lui a dit « Mais c'est un coming out ?» En parlant de mon père, il était là « C'est un coming out que tu nous fais ? T'as quelque chose à nous dire, c'est ça ?» Et tu vois, il y avait un peu ce truc de défensif, surtout entre mecs. Enfin, on m'a rapporté qu'entre mecs, c'était quand il parlait de ce livre, c'était en mode tout de suite, justement, cette défensive de quoi ? Quoi, tu insinues que ma sexualité à moi? Et mon père m'a dit qu'il avait des amis, limite, qui ont dormi plus le soir et qui étaient là dans leur lit en mode, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis hétéro. Alors que tu vois, c'est marrant, mais c'est quand même un titre universel et que ça les touche comme ça, genre certains à limite ne pas endormir de la nuit, c'est quand même fou. Ça montre que c'est une identité que l'identité de l'homme hétérosexuel est tellement fragile et tellement peu solide qu'il suffit de poser la question que personne n'avait posé, pour que ça déclenche des choses, des réactions comme ça. Je spécifie que le propos du livre n'est pas de dire que les hommes misogynes sont refoulés et sont misogynes parce qu'ils sont refoulés parce qu'ils refoulent une homosexualité, pas du tout. Ça, ce serait assez homophobe comme discours, parce que ce serait faire poser la responsabilité du sexisme sur des personnes LGBT qui seraient au placard, en fait. Et c'est absolument pas ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre, c'est « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» et pas « Les hommes hétérosexuels ». Parce que cette distinction est importante, parce qu'on parle pas vraiment dans le livre de sexualité à l'état brut, mais on parle plutôt de désir au sens large, donc de désir de reconnaissance, de désir... amoureux, de voilà, où va ton attention, où va ton désir, je veux dire, en termes d'attention et de ce qui compte pour toi, plus que une sexualité en mode est-ce que t'as envie de pratiquer des pratiques sexuelles gays, enfin c'est pas la question, quoi.
Ouais, et puis là j'aimerais bien que tu parles du fait que t'as interrogé beaucoup d'hommes hétéros sur leur supposé désir pour les femmes, et t'as aussi interrogé des femmes lesbiennes et bi. Et du coup, quelles étaient les différentes réactions? Tu leur demandes qu'est-ce que vous aimez chez les femmes? Qu'est-ce qui vous attire? Et ils te répondent quoi?
Alors déjà, pour les mecs, j'ai un peu scindé en deux. Donc les mecs qui se considéraient alliés féministes ou féministes, qui étaient souvent avec une compagne féministe, eux, ils allaient plutôt me parler de la qualité d'écoute des femmes, un peu tout le travail de care que font les femmes. Donc c'est-à-dire, elles m'écoutent bien, on peut avoir des discussions profondes que j'ai pas avec les hommes. En gros... c'est ma coach de vie qui m'aide à devenir un Pokémon plus évolué. Il y a un peu de ça, c'est un peu genre la meuf de l'ombre qui va élever son mec, mais sans que ce soit comme un professeur qui se mettrait en avant avec la meuf reste dans l'ombre et élève son gars. Et donc ça, il pensait faire une réponse assez progressiste, mais ça montrait bien qu'il y a quand même ce rôle de coach quand même de la copine qui est toujours là. Et pour les mecs pas féministes ou quoi, là c'était très simple. Le cul, les fesses, les seins, enfin c'est ce qu'ils disent, mais après ils sont en mode oui, voilà, puis après si on se marre bien et tout, mais bon, quand même qu'elle est bonne, c'est le principal, parce que après le reste, je peux l'avoir avec mes potes finalement, donc qu'elle soit pas chiante et qu'elle soit bonne, voilà. Et en plus, les études montrent que les hommes aiment beaucoup les femmes qui rient à leurs blagues, mais n'aiment pas trop les femmes qui font beaucoup de blagues. Et en fait, se méfient globalement d'un surplus d'intelligence féminine. Donc, quand une meuf paraît trop intelligente, il y a menace. Et ça coupe carrément le côté sexy, etc. Après, ils aiment bien avoir une personne suffisante pour avoir des petites discussions, qui les distrait un peu, mais pas trop, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était marrant. Alors que quand j'ai interrogé des femmes lesbiennes et bi, là, c'était extrêmement divers. Déjà, on sentait rien qu'à la voix. Parce que c'est des personnes qui ont dû se battre pour exprimer ce désir-là, etc. Donc, déjà, c'est pas pareil, tu vois. Et puis, tu t'es beaucoup plus posé la question quand tu te bats pour affirmer ce désir-là qui n'est pas la norme. Mais du coup, là, il y avait vraiment une tendresse envers les femmes qui était très touchante. Et il y avait ces mots de, ben, elles sont très drôles, elles ont une impertinence, un regard sur le monde. Même une façon, juste un regard qui est éveillé, une attitude, une allure. Et puis, il y avait aussi des femmes qui disaient qu'elles trouvaient que les seins et les fesses, c'est beau, parce que c'est OK, en fait. Le problème n'est pas de trouver que le corps, qu'un certain type de corps est beau. Le problème, c'est de limiter l'humanité d'une personne à ces attributs-là. On a tout à fait le droit de trouver quelqu'un de désirable tant qu'on voit aussi l'humanité, enfin, qu'on prend, en fait, l'ensemble, quoi. Donc, voilà, c'était assez intéressant de vérifier ça et de voir le fossé vraiment. Mais encore une fois, ça tient aussi au fait que bah, quand tu t'es battu pour affirmer un désir, tu reconnais à quel point il est précieux.
Oui, donc les hommes n'aiment pas vraiment les femmes pour leur cerveau, tout simplement.
Ah mais bah ça, est-ce qu'on est surprise? Non.
Oui, mais c'est vertigineux. Voilà. Si on pense aux femmes hétéros qui nous écoutent, qui sont en couple, enfin, c'est vertigineux de se dire que peut-être son mec te déteste et n'aime pas ton cerveau. Enfin, c'est triste.
Ouais. Bah,
mais tu penses qu'elles le savent déjà?
Oui, je pense. Je pense, de toute façon, enfin, en fait, si tu veux vraiment savoir comment est ton mec, tu l'entends parler des autres femmes, pas de toi. Tu t'écoutes comment il parle des autres femmes. S'il est en mode, elle est trop bête, elle, c'est une salope, elle, elle est hyper superficielle et tout, tu sais que tôt ou tard, il va parler comme ça de toi, en fait. Et je pense que c'est un bon conseil. En vrai, c'est un bon conseil à dire aux meufs hétéros. Check comment ton mec parle des autres femmes et essaye de voir comment il parle des autres femmes avec les mecs. Parce que les mecs font aussi beaucoup ça, c'est-à-dire qu'ils ont quand même conscience que ce qu'ils font est pas bien, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on a tendance à avoir beaucoup ce discours de les hommes ne sauraient pas, le sexisme, ne se poseraient jamais la question, ils seraient complètement naïfs par rapport à ça. C'est complètement faux, c'est bien pour ça que quand ils sont que entre mecs, ils se lâchent, en fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'avais plein de mecs dans Retour de lit qui m'ont fait, mais comment t'as fait pour savoir, comment t'as fait pour capter, en fait, nos trucs? Parce que normalement on c'est un peu une règle tacite entre mecs que on protège ces zones là des filles et qu'on ne veut pas qu'elles sachent, tu vois. Et du coup j'étais là, ben moi j'ai eu un moment des moments dans ma vie où j'ai été tolérée dans le boys club pour plein de raisons. Et donc, il se lâchait avec moi en me considérant comme pas vraiment une femme. De toute façon, comme dit Monique Wittig, les lesbiennes sont-elles des femmes? Mais ça, c'est une autre question. Mais du coup, j'ai eu accès à ces discussions-là et c'est hardcore, en fait. Mais le pire, c'est qu'ils jouent aussi une performance. Donc, c'est pour ça que la vérité est entre les deux, parce que ce qu'ils font dans le Boys Club n'est pas vraiment eux. Et ce qu'ils font quand ils font les lèches-culs avec leurs meufs n'est pas vraiment eux. La vérité est un peu au milieu. Parce que moi, je me souviens, par exemple, d'un pote qui avait dit des atrocités sur son ex. Et moi, ça m'avait énervé. Donc, j'ai pris son portable et j'ai mis... Enfin, c'est horrible, ne faites pas ça. C'est vraiment une connerie que j'ai fait quand j'avais 17 ans. Mais j'ai mis sous le poste de la meuf, avec le profil de ce mec, ce qu'il venait de dire à ses potes, tu vois, pour qu'elle sache, tu vois. Mais en vrai, j'aurais pas dû faire ça parce que c'est violent, etc. Mais du coup, et là, il avait trop honte, il avait trop peur, il était vraiment mal, tu vois, parce que il disait ça pour ses potes parce que ça comptait pas, mais c'est pas non plus ce qu'il pensait. Voilà, donc la vérité entre les deux, mais globalement, ouais... C'est ce que ça donne quand t'as passé toute ta vie à te construire en disant « je ne suis pas une fillette, je ne suis pas comme ça ». Comment désirer sainement après ce qu'on t'a appris à mépriser? C'est une vraie question.
Du coup, la question suivante, c'est pourquoi les femmes hétéros acceptent-elles ces relations pourries avec ces mecs qui ne s'intéressent pas à elles, qui ne les aiment pas?
Mais tout simplement parce que en vrai, les filles, depuis qu'elles sont toutes petites, on leur apprend que leur validation sociale, ce qui est le plus important pour elles, pour avoir de la reconnaissance sociale, c'est d'être trouvée belle, désirable et mariable ou présentable par les hommes. Et donc, c'est les hommes là où leur goal social, ça va plutôt être de plaire aux autres mecs, de les impressionner, de faire des trucs épatants, etc. Les filles, ça va être d'avoir le mec le plus beau, le mec le plus marrant, etc. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de filles se mettent dans ce rôle un peu de coach, en mode je vais relooker mon mec, je vais lui apprendre à être plus fun, etc. C'est pas que par pur altruisme envers leur mec, c'est aussi parce que plus leur mec est stylé, plus leur truc, plus elles se valorisent au travers d'eux. Donc, tu sais, cette phrase de « derrière chaque grand homme, il y a une femme », enfin, vraiment, ce truc de le rôle de la femme, ça va être d'être la coach de vie de son mec. Et donc, les meufs, beaucoup se disent que... Enfin, c'est pas qu'elles se le disent, c'est même leur famille et tout. J'ai parlé avec des meufs qui sont, par exemple, autrices, qui ont écrit je sais pas combien de livres, qui ont fait je sais pas combien de projets incroyables. Elles me disent « j'ai beau faire tout ça, pour ma famille, ça comptera toujours moins qu'un mariage hétéro, ça comptera toujours moins que le fait que je sois mère. » Et des fois, c'est vrai que ça peut être extrêmement dur et pesant pour les femmes de se dire « j'ai beau tout faire, ce qu'on attend de moi, c'est d'avoir un mec, de me marier, d'avoir des enfants. » Et ça, c'est extrêmement paralysant et ça subsiste encore aujourd'hui. C'est pour ça que tu as plein de meufs dans la vingtaine qui vont être archi-féministes, etc. Puis à passer 33 ans, boum, on sait pas ce qui se passe. On revient dans un schéma extrêmement normatif d'un coup. Puis après, genre, elles redeviennent ultra-féministes à 45 ans après le divorce. Mais il y a cette espèce de période.
Ah ouais, t'en connais ?
Oui, il y en a plein. En vrai, mais féministes à leur façon, des fois plutôt, après 45 ans, tu vois, plutôt en mode, oh, c'est bon, j'ai donné avec les hommes, j'ai fait ce qu'on attendait de moi.
Non, mais ça, je suis d'accord, mais je veux dire, des féministes de 20 ans qui à 30 ans se rangent, t'en connais aussi.
Oui, oui, oui. Ah, il y en a énormément.
C'est hyper triste.
Énormément. Enfin,
c'est même ouais, il y a tellement de pression sociale que.
Ouais. Il y a tellement. Mais après, ils gardent une certaine sensibilité, mais. Forcément, mais c'est d'ailleurs pour ça que les mouvements féministes ont aussi du mal à avoir une espèce de transmission, et c'est le cas de tous les engagements féminins, parce que même les femmes d'extrême droite ont le même problème, c'est que bah du coup après tu te ranges dans ta vie, et du coup tu laisses ta vie publique de côté, et donc tu transmets pas, et c'est toujours des personnes assez jeunes dans les mouvements féministes, parce qu'après t'as plus le temps, tout simplement, vu que tout ça repose sur tes frêles épaules. Voilà, et donc c'est tout simplement parce que c'est la pression sociale la plus importante, et contrairement à ce qu'on croit, ça ne s'arrange pas du tout. C'est pas parce que il y a les Inrock et Télérama qui font des articles sur le fait qu'on aime moins les que le couple est en train de se casser, on fait moins d'enfants, etc. J'ai l'impression que le syndrome de la vieille fille, etc. Enfin, des meufs célibataires qui sont restées célibataires toute leur vie, il y en a toujours eu. Elles ont toujours été stigmatisées. Et aujourd'hui, c'est plus un soft power qu'une impérative sociale. Mais c'est toujours aussi important. Tu vas voir des photos de couples qui font des trucs comme ça, des vidéos où ils font les restaurants. Et en plus, maintenant, il y a une pression qui est telle sur le couple que c'est vraiment genre une espèce de marque sur laquelle tu dois investir. Investir en restaurant, investir en sortie, investir en trucs. Et puis, en plus, plus tu t'habitues au confort de ton couple, et c'est pour ça que le capitalisme adore, plus c'est difficile de revenir en arrière, parce que t'as l'impression que ce serait négliger ton couple, etc. Donc il y a tout ce discours-là, qui est un peu une fuite en avant vers la consommation, et pour essayer de montrer que mon couple, il est le plus génial, on a fait tel voyage, on a fait tel resto, on a fait tel truc, et puis quand tu peux pas te le payer, du coup tu complexes, etc. Enfin, c'est... Et c'est vrai, c'est encore un truc qui est hyper structurant, mais j'ai quand même, dans certains milieux qui sont encore très niches, genre j'ai des amis hétéros, genre par exemple qui voudraient jamais être en relation lesbienne et tout, mais qui sont en mode moi maintenant si je veux acheter une maison, ce sera avec ma meilleure amie, on achètera une maison ensemble, si on veut faire un enfant, on fera un enfant ensemble et on pourra avoir nos mecs à côté, mais le noyau familial, c'est avec ma meilleure amie. Et ça, par contre, je trouve que ça reste extrêmement minoritaire, mais ça, c'est hyper novateur, même si encore une fois je pense que dans des individualités ça a toujours existé, mais c'était peut-être pas politisé, tu vois. Voilà.
Ouais. Et du coup, un an après sa sortie, comment ton livre il a été reçu dans les milieux féministes, queer ? Est-ce qu'il a quand même permis à des personnes de sortir de l'hétérosexualité ou de leur relation avec les mecs ?
Ouais, j'ai eu des messages de gens qui ont divorcé quand même. De gens qui sont... ouais. Des gens qui sont sortis du placard aussi. Parce que je rappelle... ça, dans le féminisme hétéro, des fois, il y a un peu tendance à l'oublier, et je l'ai vu par rapport à la sortie du livre. C'est que oui, il y a des mecs gays qui étaient au placard et mariés avec des femmes, et des meufs lesbiennes mariées avec des hommes. Ça existe encore aujourd'hui, mais c'est pas parce que c'est un méchant gay ou quoi, c'est parce que, enfin, je veux dire, faut pointer la société du doigt qui amène à ce genre de choses et qui amène à des souffrances extrêmement intenses qui font presque du trauma familial ensuite, parce que c'est des choses qui restent dans les familles et qui sont des secrets qui sont tués, etc. et qui font souffrir autant la femme que le mec des deux côtés. Voilà. Et donc, du coup, il y a quand même un peu une prise de conscience par rapport à ça. Vraiment, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir une super bonne réception et surtout d'avoir un public très large parce que à chaque rencontre que j'ai fait, il y avait à la fois des personnes hétéros, des personnes bi, trans, lesbiennes, gays, beaucoup de personnes gays aussi qui venaient. Et ça, c'était super chouette d'avoir un public aussi, enfin, où vraiment tout le monde s'est déplacé, quoi. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas vu sur Nos Amours Radicales, tu vois. C'était beaucoup de femmes hétéros, le public. Là, c'était beaucoup plus divers et je m'en suis rendu compte, du coup. Et parce que finalement, comme ça touche à l'hégémonie, avec ce prisme un peu, du coup, c'est quelque chose où c'est une question qui appelle à une réponse et où tout le monde peut, du coup, se positionner par rapport à cette question, parce que bah, l'hégémonie, tu te construis soit en l'imitant, soit en la contrant, mais dans tous les cas, t'as quelque chose à en dire, tu vois. Donc, comme tout le monde a envie de dire quelque chose sur la bourgeoisie, et pour moi, les hommes sont la bourgeoisie du genre, tu vois.
Ouais, parce que du coup, tu as coécrit un autre livre, Nos Amours Radicales, avec d'autres auteurices. Tu avais déjà écrit un peu sur ce sujet, non? Ou tu avais écrit sur quoi
Mon texte,
ton
alors,
texte?
ça fait longtemps que je l'ai pas relu, mais c'est un peu sur. Moi, j'insiste aussi beaucoup sur comment l'héritage chrétien, il nous modèle et il nous modèle même dans les milieux de gauche, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un aveuglement. En mode, justement, on est tous laïcs, on est tous athées. D'accord, oui, mais tu as hérité de ces normes et valeurs, tu as hérité de ça, et t'en as même pas conscience du coup. Et des fois, je vois dans les milieux militants se reproduire des choses. J'ai l'impression d'être de retourner au catéchisme. Genre, enfin, tu vois, avec ce truc de limite la confession, tu vois, genre le fait de dire je suis une femme cis, hétéro, je suis privilégiée sur ça, enfin, on se croirait à la confession avec le prêtre, et tu vois, des petits trucs comme ça où je suis en mode non, mais ça, c'est un truc de catho, tu t'en rends pas compte. Donc, déjà, dans mon texte Nos Amours Radicales, j'en parlais, mais maintenant, c'est un texte que j'assume plus trop, honnêtement, parce que j'étais très jeune, j'avais 21 ans quand je l'ai écrit, et
Ah
en vrai,
ouais.
bon, il est pas mauvais, mais juste, j'ai beaucoup évolué depuis, quoi.
Oui, bah je pense qu'il faut aussi qu'on accepte qu'on n'est plus d'accord avec ce qu'on a dit il y a un an et que j'écouterai cet épisode dans 10 ans et je ferai pardon. Mais en fait, enfin c'est normal. Et moi, je me rappelle de ton texte, il était très bien d'ailleurs. Mais du coup, j'ai l'impression que ton nouveau livre, enfin les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Il est sorti il y a un an, j'ai l'impression qu'il a eu un énorme écho. Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que tu as des chiffres de vente? Est-ce que tu es contente de ce que ça a donné? Ou je sais pas.
Ouais, en vrai, pour l'instant, j'ai pas de chiffres fixes, je sais pas trop. Mais oui, il a eu un gros écho et surtout, il a réussi à sortir un petit peu du milieu ultra militant. Voilà.
Ah ouais.
Du coup, pour le meilleur et pour le pire, parce que forcément, il est tombé dans les mains de meufs de 40 ans, mariés, 4 enfants, tu vois. Donc, mais en vrai, et puis même, il a tourné sur pas mal de médias, parce que j'ai une très bonne attachée de presse aussi, mais en vrai.
T'as fait des gros médias en fait.
Non, j'ai pas fait de télé.
Mais il a tourné, ouais.
Il a vachement tourné, mais il a beaucoup tourné par bouche à oreille, parce qu'en plus il n'a pas été tant distribué que ça en librairie, parce qu'il a été envoyé
Ok.
trop tard. Enfin bref, il y a eu des problèmes, donc du coup il n'a pas été si bien distribué. Mais juste, j'ai eu beaucoup de chance qu'il marche par le bouche à oreille. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il n'y avait pas trop de livres sur ça. On arrivait à un moment où il y avait beaucoup beaucoup de livres féministes, du coup il y avait une petite lassitude. Mais ça, je pense que des gens se sont dit ah bah tiens, c'est intéressant, c'est un peu frais entre guillemets. Donc voilà. En vrai, je suis super contente de tous ces retours et j'espère que il va s'inscrire dans la durée, parce que c'est toujours ça l'enjeu, quoi.
Bah, félicitations en tout cas.
Merci.
Et je pense que bah, c'est grâce à toi aussi, tu l'as porté pendant un an. Là, tu m'as dit que tu allais peut-être arrêter la promo au bout d'un moment, mais c'est toi qui l'as porté, c'est toi qui a répondu à toutes ces interviews. Donc, c'est comme ça qu'un livre marche. Mais bon, tu viens de dire qu'il y avait aussi une attachée de presse qui est super.
Ouais, non, mais c'est sûr. Oui, bah c'est sûr que par contre, je l'ai beaucoup porté et j'ai mis énormément d'énergie dans la promo. Parce que ça me tenait à cœur, et puis j'ai aussi beaucoup poussé pour aller dans des lieux alternatifs et tout, ce que la thèse n'a pas trop l'habitude de faire. Donc je lisais, genre c'était marrant de voir la thèse au Saint-Sauveur, qui est un bar anarchiste, ou la thèse, tu vois, dans un petit tiers-lieu au fin fond de la France. Enfin, ça c'était marrant parce qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de faire ça, mais ça me tenait à cœur quand même que ça reste pas que le livre circule dans des espaces un peu moins conformistes. Donc franchement, je suis assez contente, et même je suis contente aussi d'avoir choisi une maison comme la thèse pour que des idées queer puissent intégrer l'hégémonie, parce que pour moi, il faut que une partie des textes reste pour nous communautairement et soit un peu notre trésor à nous. Mais je pense qu'une autre partie, quand c'est Enfin, c'est des questions comme ça où tout le monde peut se reconnaître, peut aller chercher l'hégémonie. Enfin, je pense qu'il faut un peu tabler sur les deux. Et moi, je fais le choix là de tabler sur un public plus large que la communauté queer féministe. Et j'en suis très contente. Même si tu vends des livres, enfin là pour l'instant, toutes les ventes que j'ai faites, je saurai en juin parce qu'on a payé un an et demi après la sortie du livre, faut le savoir. Et du coup, ça sera toujours pas un SMIC sur un an alors que j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire. Donc c'est très précaire l'écriture parce que je dis ça parce que je pense que des fois les gens pensent que parce qu'on a eu un peu de succès avec le livre, on est à l'abri et tout. Pas du tout. Surtout quand on écrit des sciences humaines féministes. En France, il y a 150 personnes qui vivent de leur écriture, faut le savoir. C'est un milieu. Très compliqué, mais qui offre en même temps une liberté et beaucoup de kiff, quoi. Mais voilà.
Je confirme. Pour finir, je voulais savoir sur quoi tu bosses maintenant, si tu avais un dernier conseil à donner, une recommandation culturelle ou juste nous parler de tes prochains projets.
Ouais, recommandations culturelles, là, tout de suite, ça me vient pas. Mais pour mes prochains projets, du coup, j'ai un mémoire universitaire à finir de rendre, puisque je l'ai rendu en décalé à cause du livre. Voilà. Et après, je continue à travailler pas mal sur le fémonationalisme. Et on verra si ça donne un projet de livre ou pas. Ce sera pas que sur le fémonationalisme, mais ce sera plus sur les femmes cette fois, disons, de façon générale.
Ton mémoire, il est sur le fémonationalisme?
Ouais, le premier, c'était sur le collectif Némésis, qui est un collectif d'extrême droite qui se revendique féministe. Et le deuxième, je ne peux pas le dire pour l'instant, mais ça touche à cette question-là. Ouais.
Est-ce que tu peux définir ce terme pour les gens qui connaissent pas?
Le fémonationalisme, c'est l'instrumentalisation de la cause féministe et des questions de genre pour servir un projet nationaliste, excluant, raciste. Donc, ça peut être l'extrême droite qui le fait, mais ça peut être aussi la gauche, par exemple le PS, qui a fait émerger beaucoup de thématiques fémonationalistes en liant, en gros, en disant en gros qu'il y aurait un patriarcat. Plus dur, plus menaçant pour les femmes, qui serait celui des hommes racisés, et que ça devrait être la priorité du féminisme de s'attaquer aux hommes racisés. En gros, c'est ça. Donc voilà. Donc de Chiappa, Born, Aurore Berger, je sais même pas si on peut parler de fémonationalisme parce que là, c'est assumé que c'est un projet réactionnaire. Mais un peu, mais voilà. Et ça date de tout le temps où il y a eu des féministes blanches, il y a eu du fémonationalisme, entre guillemets, puisque Hubertine Auclert, par exemple, en France, militait beaucoup pour le droit de vote des femmes en disant que des sauvages comme des hommes noirs avaient déjà le droit de vote et du coup que ça plaçait les femmes blanches en dessous des hommes noirs, donc que c'était qu'on était vraiment, enfin voilà, bref, vous avez compris l'idée. Donc ça a toujours existé, mais ça a pris en ampleur au fur et à mesure qu'il y a eu des instances. Pour gérer les femmes à l'échelle internationale, genre ONU, Oxfam, etc. Parce que du coup, forcément, les enjeux, c'est en quelle langue ça va être publié, souvent en anglais, à quel pays on s'adresse, etc. Et du coup, ça fait une espèce de internationale pensée du point de vue occidental qui normalise encore plus l'impérialisme occidental. Voilà, donc c'est très complexe, mais c'est hyper intéressant et c'est un peu vertigineux aussi. Parce que forcément, ça nous remet en question nous aussi en tant que personnes blanches. Et du coup, c'est très dur de pas hurler tout le temps, parce que là, avec l'actualité, on est saturé de ça, que ce soit par rapport au traitement de ce qui se passe à Gaza, que ce soit par rapport à même potentiellement aux fins de droit du sol à Mayotte, où les femmes, du coup, sont hyper instrumentalisées pour arriver à la fin de droit du sol. En fait, il y a trop de trucs où j'ai tout le temps envie de hurler parce que je vois les ficelles et que j'ai pas forcément le temps de faire des posts ou des articles hyper fouillés parce que c'est un sujet compliqué. Et du coup, j'ai envie de hurler, mais si je hurle, les gens vont pas forcément comprendre toute la complexité du truc qui me fait hurler. Et ça, c'est très frustrant, mais j'aurai le temps de déplier ça plus tard, on va dire. Voilà.
Oui, et puis tu n'as que 25 ans, donc je pense qu'on a encore de belles années à te lire. Ton compte Instagram, c'est
Ouais.
Mécréante, on l'a même pas
Oui.
dit. C'est très connu. Et pour finir, je voulais dire aussi comment on se connaît. Bah, on se connaît pas, je crois. Là, on fait une visio, donc on n'est même pas l'une en face de l'autre. Moi, je te suis sur les réseaux par ton travail, mais je crois que tu connaissais pas
Si, un
forcément
petit peu,
Sologami avant de.
en tout cas, j'avais suivi tes aventures à pied un peu.
Ah, ok. Trop bien. Bon, bah, on se connaît finalement sur les réseaux. Merci Léane.
Et merci à toi.
De rien. On arrête de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeuristes, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous êtes un homme hétéro? Je pense pas, il y en a pas beaucoup qui écoutent le podcast. Est-ce que vous en côtoyez dans votre vie? C'est plus possible. Que pensez-vous de leur bromance avec d'autres hommes et de leur mépris des femmes? Avez-vous lu le livre de mon invité? que je vous recommande chaudement. Écrivez-nous pour me répondre. Mon pseudo, c'est MarieAlbertFR sur tous les réseaux sociaux. Si vous écoutez Sologamy sur Spotify, vous pouvez aussi donner votre avis directement sur la page de l'épisode. Aujourd'hui, je vais citer Joanne, qui m'a écrit sur Instagram le 10 octobre 2023 pour réagir à l'épisode 33 de Sologamy qui s'appelle « Je me masturbe ». Joanne écrit « Je regardais ta vidéo d'annonce de ton nouvel épisode de podcast sur la masturbation en marchant dans la rue. Je faisais un grand sourire en mode « Ouais, le womanizer TMTC ». Et là, je lève les yeux et un mec qui croisait mon chemin me fait un grand sourire en retour. Il serait surpris d'apprendre qu'une femme qui sourit dans la rue n'est pas forcément en train de séduire. En l'occurrence, je célébrais juste avec moi-même la badassitude des meufs et le fait qu'elles n'ont besoin de personne. » Super épisode au passage, bah merci Joanne, tu gères de ouf. Et puis ça m'a fait beaucoup rire ton message. Voilà, donc vous pouvez donc commenter ce podcast sur la plateforme de votre choix, vous pouvez m'écrire sur les réseaux ou soutenir financièrement le podcast sur Patreon. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sologamy. Et puis au revoir Léane.
Au revoir, merci beaucoup.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.